Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Si vous n'avez encore jamais vu de conférence d'Isabelle Peloux, je vous invite à le faire tout de suite. Isabelle est une personnalité importante de la pédagogie en France. Forte de son expérience à l'école du Colibri aux Amanins, elle nous raconte comment chaque jour dans sa classe est un nouvel apprentissage. Inspirée par de nombreux spécialistes d'éducation, de pédagogie et de neurosciences, une phrase de Pierre Rabhi la porte depuis toujours. Quels enfants laisserons-nous à notre planète ? C'est ainsi qu'au quotidien, elle réfléchit et expérimente constamment de nouvelles méthodes afin que toutes les différences des enfants soient prises en compte. Son objectif ? Éduquer à la paix, un projet que l'on admire forcément. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder cet échange aujourd'hui. Pour vous présenter brièvement, vous êtes professeure des écoles, fondatrice de l'école élémentaire du Colibri aux Amanins, chercheuse en pédagogie et en éducation à la coopération, formatrice. Vous êtes une figure importante de l'éducation à la paix en France et je ne pouvais donc pas ne pas vous interviewer dans le cadre d'un épisode de notre podcast. Mais alors la première question qui me vient, c'est pourquoi avez-vous décidé de dédier votre carrière professionnelle à l'éducation et l'enseignement ?
Alors, je crois que c'est venu quand j'étais très petite, où j'ai eu un petit frère 4 ans après moi et où je me suis dit, mais il faut que je montre aux adultes que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Voilà. Ma vocation, elle est née vraiment petite. Et ensuite, ça a été une quête permanente de, mais comment protéger les enfants parce qu'ils sont moins autonomes que nous et que du coup, on peut pas faire comme s'il se passait rien pour eux, quoi. Voilà.
Comment avez-vous vécu vos premières années en tant qu'enseignante dans le système classique ?
Alors, pas si mal que ça. Moi, j'ai plutôt bien aimé. J'ai eu la chance, ou pas la chance, j'en sais rien, mais pour moi, c'était une chance d'être dans l'enseignement privé catholique. Ce qui fait qu'on a une marge de manœuvre au niveau de la liberté pédagogique beaucoup plus importante que dans l'enseignement public. Et ça, je m'en suis rendu compte après. Et une fois qu'on a trouvé une équipe avec qui on s'entend bien, dans ces écoles-là, en fait, ça peut être un travail assez formidable. Enfin, voilà, moi, j'ai trouvé qu'on était très créateurs, on pouvait beaucoup expérimenter. Et du coup, la démarche de chercheuse, j'ai commencé à l'acquérir plutôt dans ce domaine-là.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire autre chose ?
Alors, c'est une opportunité, parce qu'en fait, j'avais jamais pensé faire une école. C'était pas dans mes ambitions, parce que dans ma tête, c'était rangé dans la case enfant privilégié, un peu hors société, et comment ils vont faire pour se réadapter après. Bah, et en fait, ça a été l'opportunité avec le projet des Amanins, où je montais les classes découvertes. Et un jour, j'ai dit, ah, mais si on aurait une école, elle serait en classe découverte toute l'année. Et ben, on m'a dit, vas-y. Voilà. Donc, ça a été un peu un challenge à relever qui m'a bien plu. Et la question financière ne se posait pas puisqu'on avait un mécène. Donc, en plus, j'avais pas la case enfant privilégié qui était trop éclairée à vif. Donc, ça m'allait bien. Voilà.
Et qu'est-ce que ça veut dire, classe découverte?
Ça veut dire que ça donne des enfants qui sont... c'est une école qui est en pleine nature, parce que nous avons la chance d'être en pleine campagne, et qui est rattachée à un centre où il y a une ferme. Et du coup, il y a plein d'activités qu'on peut faire pour de vrai. Ça fait une école hors les murs, ça fait une école où les enfants sont peuvent donner du sens à leurs apprentissages très facilement, parce qu'ils le voient concrètement à l'extérieur, ils peuvent aller l'expérimenter. Et comme c'est par l'expérience qu'on apprend, ben voilà, là, on avait matière à leur faire faire très facilement plein de choses.
Qu'est-ce qui vous a semblé important à expérimenter d'un point de vue pédagogique? Je sais que vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet, et notamment sur le sujet de la coopération. Et je sais que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs, donc j'aimerais bien que vous nous en disiez plus.
Alors moi, j'étais déjà dans les mouvements freinés, hein, dans tous les ICM, sur la recherche du tâtonnement expérimental de Claparède. Enfin voilà, c'est les pédagogues qui m'ont inspirée. Et après, j'étais très rattachée à Philippe Mérieux, qui, lui, travaillait beaucoup sur la place de la socialisation à l'école. Et ça me passionnait, parce que je trouvais que le groupe social à l'école était, pour certains enfants, le lieu de résilience, et pour d'autres enfants, un vrai apprentissage, parce qu'à la maison, ils étaient dans un milieu plus intime et qu'ils le faisaient peu. Et en parallèle, l'équipe des Amanins se montait. On était en train de participer à un très beau projet inspiré par Pierre Rabhi, donc avec une philosophie un peu de haut vol, et on se cassait la figure de façon magnifique, hein, c'est-à-dire qu'au niveau de la coopération, on ne savait pas du tout faire. Ce qui fait que, comme moi j'avais fait une formation de psycho, dans ma formation, on avait beaucoup travaillé sur la dynamique relationnelle, et voilà, pour moi c'était évident que dans l'éducation, il fallait inclure l'écologie, mais aussi l'écologie relationnelle. Et là, pendant l'été avant l'école, j'ai fait une formation avec Unipaz, qui est donc inspirée d'un Français, Pierre Veil, qui a habité au Brésil et qui a créé cette association, une formation à la faculté pour être en paix avec soi-même, avec les autres, avec son environnement. Et là, ça a fait dans ma tête, ça a vraiment donné du sens à mon projet pédagogique d'école en disant, mais c'est ça que j'ai envie d'apprendre à mes élèves, quoi. Et comme c'est au service des méthodes qu'on utilise, c'est-à-dire que la pédagogie qu'on utilise vient du tâtonnement expérimental, donc des pédagogies freinées qui partent, on fait d'abord une recherche personnelle, qu'est-ce que je pense savoir sur le sujet, ensuite je me pose des questions sur ce sujet, j'émets des hypothèses, je fais des expérimentations pour vérifier mes hypothèses et j'en tire un nouveau savoir. Cette démarche-là demande forcément qu'à un moment je travaille en groupe, et donc est vraiment au service de la coopération. Donc on a vraiment très vite réfléchi sur le fait que coopérer, fallait que ça s'apprenne. En fait, on pouvait pas juste leur demander de coopérer parce qu'ils savent pas faire, et nous les adultes, on savait pas faire. Donc ça a été vraiment, je me suis inspirée de ce qui nous manquait en tant qu'adultes pour le porter au niveau des enfants.
Et alors comment cela se concrétise dans votre école ?
Alors ça se concrétise principalement par donc cette méthode de travail où on essaye le plus souvent de mettre l'enfant en recherche. Je peux donner un exemple très simple. Par exemple, on a une règle d'orthographe à leur faire revoir, à leur faire apprendre, enfin à leur faire émerger, parce qu'en fait, ils le savent déjà, mais on va faire venir le questionnement. Par exemple, ils ont A avec accent, A sans accent. Ben là, on leur donne 20 phrases dans lesquelles il y a des A avec accent, A sans accent, et on va leur dire, tiens, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des A avec accent, des A sans accent? Donc, ils vont d'abord chercher tout seuls. Ça, c'est un temps. Par exemple, chez les Freinet, souvent, c'est ce temps-là qui était oublié. Il passait directement au travail de groupe. Et en fait, si on passe directement au travail de groupe, on n'est pas passé par son propre monde. Et quelquefois, on part tout de suite dans le monde de l'autre sans avoir identifié que nous, on avait une fausse croyance qui était là. Donc, il faut d'abord passer par son monde pour que les croyances qu'on a émergent. Et ensuite, quand je vais me confronter aux croyances des autres, tout seul, je vais voir que ma croyance... Ah oui, ça marche pas, en fait, ce que je raconte. Ou bien, au contraire, je vais voir que la croyance de l'autre fonctionne pas. Et du coup, on va pouvoir... coopérer et pour mettre au point des hypothèses et ensuite les vérifier et ensuite en tirer un nouveau savoir. Donc cette méthode, on l'utilise le plus souvent possible dans la journée, pas tout le temps parce qu'elle ne répond pas à tous les besoins des enfants et à toute la pédagogie, mais c'est une pédagogie parmi d'autres, mais elle marche quand même vraiment très bien. Quand elle fonctionne, c'est vraiment la plus efficace. Ce travail de groupe génère forcément des tensions. Et en fait, si on ne gère pas ces tensions dans le reste de la semaine, ça donne des enseignants qui, au bout d'un moment, disent « Non, mais le travail de groupe, c'est bien gentil, ça fait trop de bruit, ça met le bazar. Après, j'ai plein de tensions entre mes élèves. Donc, hop, je les remets en randonnion, ils retravaillent tout seuls et on n'en parle plus. » Voilà. Donc, comment les aider à coopérer et à dépasser ces tensions? Donc là, nous, on a mis en place 3 temps dans la semaine. Un temps d'atelier philo. Donc là, pour ceux que ça intéresse, faut vraiment aller lire les écrits de Frédéric Lenoir avec la Fondation Sève, là, savoir être et vivre ensemble, parce qu'ils trouveront tout ce qu'il leur faut dedans. Et donc, les ateliers philo, nous, c'est un moment dans la semaine assez extraordinaire où les enfants expriment leurs pensées, et c'est autant un exercice d'écoute, parce que dans la coopération, il y a besoin d'écoute. Donc, j'apprends à écouter la pensée de l'autre. J'apprends à venir offrir ma pensée aux autres. Donc, j'apprends à m'exprimer aussi à l'oral, à mettre en mots ce qui se passe dans ma tête. Et nous, ce qu'on voit, c'est que ça ouvre à beaucoup de tolérance. Parce qu'en fait, je me rends compte que sur un sujet, ah oui, il y a plein de façons d'observer ce sujet. Il n'y a pas que la mienne. Et ça, c'est vraiment un savoir fondamental dans la relation humaine, de savoir que c'est que moi qui regardais comme ça. Alors, on est peut-être plusieurs, mais il y a plein d'autres points de vue. Et du coup, c'est ça qui fera démocratie plus tard. Enfin, voilà, c'est très relié à un ensemble de visions. Hein. Donc ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, c'est un temps de réunion, donc de classe coopérative. Hein, c'est un temps classique. Et ça, c'est Philippe Mérieux qui m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que moi, j'appelais ça la réunion, par exemple, du vivre ensemble. Il me disait, mais vivre ensemble, ils n'ont pas le choix. Donc, on s'en fout. Vivre ensemble, c'est vivre ensemble. Par contre, on peut choisir de bien vivre ensemble. Donc, on appelle ça la réunion du bien vivre ensemble. C'est-à-dire que, voilà. Et là, nous, on leur apprend les bases de la sociocratie. C'est-à-dire que dans ces réunions-là, on vient jamais se plaindre. On vient poser une question. Donc, soit on vient formuler une demande, ce qui est pas pareil qu'une plainte. Ça change le ton. Et ensuite, on fait une proposition. Si on n'a pas de proposition, on vient avec sa demande et c'est le groupe qui fait une proposition pour répondre à la demande. Et cette demande va quelquefois lever d'autres tensions. C'est-à-dire que la proposition qui va être faite peut ne pas aller à un autre qui, du coup, va dire, ben, moi, ça me va pas. Du coup, on va chercher une autre proposition jusqu'à ce qu'on en trouve une qui aille à tout le monde. Et puis, si jamais on piétine, ben là, on va juste dire, ben, écoute, on teste cette solution pendant une semaine et la semaine prochaine, on en reparle. Ce qui fait que ça permet d'avancer très vite. Avec les enfants, cette méthode, elle va assez rapidement. Ils sont moins compliqués que les adultes. Nous, on l'a testé en équipe aux Amana. Quelquefois, c'était très long de lever toutes les tensions. On en avait. Voilà. Mais dès qu'on a la solution de donner un délai, et entre adultes, ça ferait pareil, hein, dire, ben, on en reparle dans 3 mois. Ben, on sait que on va avoir le temps de dire pourquoi on était inquiet. Parce que concrètement, on aura vécu la nouvelle solution et on pourra dire, bah, c'est ça, je sentais bien qu'il y a un truc qui irait pas, bah, c'est là que ça va pas. Et du coup, on va pouvoir améliorer la solution. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et le dernier temps, c'est le temps d'éducation à la paix. Et donc là, on va leur donner des outils pour gérer ces états émotionnels quand ils sont inconfortables. Comment je peux faire pour me ressourcer? Donc, il y a évidemment toute la pratique artistique, il y a tout le rapport à la nature, il y a des exercices de recentrage multiples et variés, du yoga, de la respiration, etc. Voilà. Et on donne aux enfants, il y a une boîte à soucis, il y a les mandalas, enfin voilà. Chaque fois, comment, quand j'ai une émotion qui m'est inconfortable, et comme je suis à l'école, si je suis dans une émotion inconfortable, je vais pas pouvoir travailler et apprendre, il faut que je puisse la mettre de côté pour pouvoir retrouver une sécurité en interne qui me permette de me remettre au travail. Parce qu'à l'école, on n'est pas là pour les soigner, c'est pas de la psychothérapie. Hein, c'est vraiment de la gestion de mes états émotionnels du moment parce que ben je suis à l'école pour apprendre et si j'apprends pas, je vais repartir avec 2 soucis. Quoi. Voilà, on va leur apprendre ça et puis à être en paix avec les autres, évidemment. Ça, c'est le gros morceau. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le lien? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe pour les autres? Comment j'apprends à être en empathie? Comment je fais attention de pas écraser les autres, mais comment je fais attention de pas me laisser écraser? Voilà, donc tout ça, c'est on passe beaucoup par les jeux coopératifs qui sont une mine d'or de situations où en jouant, on se retrouve confronté à des solutions de coopération où ah oui, si on fait comme ça, ça marche mieux. Voilà, donc les enfants apprennent beaucoup avec tout ça.
Et après tant d'années d'expérimentation, qu'est-ce que vous pensez des résultats obtenus de cette manière de fonctionner à l'école?
Alors déjà, c'était tout le temps, nous on s'est vraiment positionné en chercheur, qui fait que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait adapter tout le temps parce que les enfants bougent aussi. Et les enfants de 2022 sont pas les mêmes que quand j'ai débuté en 2006. Ce qui fait que ça permet, en étant chercheur, en fait, on s'adapte tout le temps à cette nouvelle société qui est en train de monter. Par exemple, là, on a des enfants aujourd'hui qui sont nés avec la problématique de réchauffement climatique. Et donc, c'est des enfants qui demandent à passer à l'action. Et ça, moi, je connaissais pas ça avant. Avant, on les protégeait plutôt, on leur en parlait pas trop, on savait pas trop quoi en faire. Et là, ils demandent d'agir, ils demandent de se bouger, ils demandent... Voilà, donc nous, on est obligés de s'adapter en permanence à cette ces enfants qui montent. Donc, oui, ça change tout le temps, je sais pas comment vous dire. Le bilan, c'est que ben on fait subtilement évoluer tout le temps le protocole. On s'enrichit toujours des nouvelles découvertes. Et puis, les neurosciences viennent vraiment nous aider. Si on en prend le bon côté, parce qu'il y a évidemment après il y a le côté évaluation et chiffrage qui est pas forcément passionnant, mais tout ce que fait Olivier Houdet et tout ce groupe de recherche qui nous aide à comprendre ce que c'est qu'un biais cognitif, un biais décisionnel, ben ça on l'explique aux enfants du coup. Voilà. Et pour les enfants c'est très apprenant quoi, de comprendre comment ça fonctionne. Ah ben oui, t'as vu, j'ai refait tout le temps le même truc, je m'en étais pas rendu compte, c'était devenu un réflexe. Ben oui. Voilà. Du coup, ça aiguise ce qu'on appelle le discernement, qui est fort utile aujourd'hui, où on est même tous très perdus en disant, ben, maintenant qu'on a compris que tout était faux, ben, comment on fait pour se... comment va-t-on savoir où est la bonne information? Et ben, justement, on n'en sait rien.
Ce que j'aime aussi beaucoup dans votre approche, c'est que vous réfléchissez énormément à la posture de l'adulte. Et j'ai vu dans l'une de vos conférences, que vous disiez notamment de travailler qu'avec des adultes responsables. J'aime bien cette expression. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ?
Alors, pour de vrai, évidemment que tout le monde se définit en adulte responsable quand même. Mais c'est plutôt que, voilà, moi ce que je dis beaucoup, c'est que la méthode est moins importante que la posture de l'adulte. Et qu'il n'y a rien, même un instit qui aurait des méthodes très traditionnelles, pas très modernes et un peu rasoirs, si c'est quelqu'un qui humainement est très à l'écoute des enfants et très respectueux et donc très aligné à l'intérieur de lui dans ce qu'il leur transmet, ça sera un excellent enseignant. Le contraire n'est absolument pas vrai. On peut appliquer une très bonne méthode pédagogique et ne pas être aligné et du coup harceler un enfant ou l'écraser ou l'humilier. Voilà. Et il n'y a rien de pire quand je suis en train d'apprendre que d'être dans le jugement de l'autre. Quand je suis en train d'apprendre, je suis en position de vulnérabilité. Je sais que je ne sais pas. Et c'est très désagréable. Personne n'aime cette posture. Alors voilà, elle est très insécurisante. Donc, j'ai besoin en face de quelqu'un qui n'est pas dans le jugement. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit à un élève qu'il était nul, évidemment. Mais j'ai déjà eu des élèves qui sont venus me voir 3 fois de suite avec leur exercice faux. Et imaginez la 3e fois où ils arrivent et moi, je suis rempli d'un découragement. Le temps de... Eh ben, ils l'ont entendu. Hein, voilà. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je vous promets que je ne l'ai pas dit. Voilà. Et du coup, il faut vraiment être super attentif. Et du coup, moi, je rajoutais toujours, écoute, là, le soupir, il n'est pas pour toi, il est vis-à-vis de moi, parce que mon métier, c'est d'expliquer. Je suis une machine à explication. C'est ça, mon travail. Et là, manifestement, j'explique mal, puisque tu ne comprends pas. Donc, il faut que je trouve comment t'expliquer autrement. Donc, c'est de ma faute, il faut que je cherche. Donc, le nul, il est de mon côté. Enfin, vraiment, l'incompétence, elle est du côté de l'adulte, elle n'est pas du côté de l'enfant. Et ça va être la même chose dans les états émotionnels d'agacement, d'énervement. Voilà, moi, je suis humaine quand je suis à l'école. J'ai des journées où mon seuil de tolérance n'est pas le même. Et du coup, je préviens les enfants. Ben là, j'ai très mal dormi, je vous préviens, je vais peut-être être un peu plus irritable que d'habitude pour qu'ils sachent où je suis. Mais ça veut dire que si je m'autorise à faire ça, je les autorise à faire pareil. Je les autorise à dire en ce moment, je vais pas bien. Et du coup, je suis plus susceptible et j'en tiens compte. Voilà, donc c'est ça l'intelligence relationnelle. C'est prendre en compte ce qui se passe, mais pas s'en servir comme d'une excuse. C'est pas parce que je suis pas bien que du coup, j'ai le droit de crier plus que d'habitude. Voilà. Et puis après, je vais aussi tolérer en moi, ça je le rajoute, c'est important, que de temps en temps, je vais pas y arriver. Il y a des jours où je vais pas être très performante. Il y a des jours où je vais craquer, je vais crier. Voilà, Isabelle Pelou, elle crie à l'école, ça arrive. Et c'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, c'est si je le reconnais pas. Et donc là, je vais ensuite dire à mes élèves, ben excusez-moi, là, effectivement, c'est pas juste, mais c'est juste parce que je vois bien qu'on n'arrive pas à s'entendre et ou que vous dépassez les bornes, et j'ai pas su comment faire autrement qu'en vous criant dessus, quoi. Et puis il y a des fois où c'est bien de crier parce que ça contient. C'est pas un crier pétage de plomb, c'est un crier aligné, et c'est là où je fais appel à la responsabilité de l'adulte, c'est-à-dire qu'à un moment, non mais là c'est ma qualité d'indignation, c'est non quoi. Là c'est juste pas possible de continuer comme ça. Parce qu'il y a les autres, parce que t'es pas tout seul, parce que tu peux pas te permettre de quand tout le groupe demande à faire quelque chose, il y a que toi qui veux pas, par exemple, ben, tu peux pas faire une crise. On peut entendre que c'est difficile pour toi, mais par contre, ta façon de réagir ou d'empêcher tout un groupe de faire quelque chose parce que toi t'as pas envie, bah c'est pas possible en fait. Voilà, c'est ça la limite de l'apprentissage social à l'école. C'est ça que tu vas apprendre, que tes frustrations vont faire que t'apprennes à les gérer. Et t'en es capable et tu vas pas en mourir. Voilà. Et ça c'est vraiment très important.
Ce que j'aime aussi beaucoup dans votre école, c'est le côté inclusif. Vous dites notamment que ce sont ces enfants qui vous apprennent le plus. Pourquoi ?
Alors, pédagogiquement parlant, c'est eux qui nous apprennent le métier, parce qu'en didactique, ils nous obligent à tout décomposer. Et tout ce que je décompose avec eux, que je n'aurais jamais eu l'idée et qu'on pouvait se poser cette question-là, va faire que quand je vais après faire mon cours à des enfants dits ordinaires, ben j'ai la décomposition en tête, quoi. Je vais pouvoir utiliser cette décomposition pour aider les autres. Donc déjà au niveau didactique, c'est eux qui m'apprennent, voilà. Et parce qu'ils posent des questions improbables, ils comprennent pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde. Donc attends, comment ça se fait qu'ils comprennent pas ? Donc dans son monde à lui, comment c'est, quoi ? Donc ça m'oblige à développer des outils, voilà, beaucoup de manipulation, beaucoup de travail par le corps, beaucoup de choses visuelles, parce que très souvent c'est des enfants qui ont besoin du visuel. Voilà, donc il nous oblige à créer plein d'outils. Et puis l'autre chose, c'est qu'il nous oblige à parler de la différence. Eux, ils ont des différences qui se voient, on peut pas les cacher. Et ça permet on est obligé de parler aux autres enfants de cette différence pour que les autres enfants comprennent. Parce qu'en fait, une société inclusive, c'est une société qui a appris aussi à faire avec la différence. Parce que quand on nous apprend pas à faire avec la différence, en fait, on en a peur. Et du coup, on les inclut pas. Donc là, les inclure, c'est comprendre, dans ton monde à doigts, comment c'est quand on peut pas marcher, comment c'est quand on comprend pas ce que l'autre me dit. Quand on a une dysphasie, comment c'est, c'est très particulier. Donc en fait, comment c'est quand on est sourd, comment c'est quand on, au niveau cognitif, on est handicapé, qu'on comprend pas grand chose, comment est-ce que socialement je peux t'aider? Voilà. Donc l'école inclusive, elle est aussi importante pour les enfants dits ordinaires que pour les enfants en difficulté. Pour les enfants en difficulté, ça les aide à être plus dégourdis parce qu'ils sont stimulés par les autres. Et pour les enfants ordinaires, ça leur apprend à parler de leurs propres difficultés, parce que comme les autres en parlent, ils vont parler des leurs aussi, et à aider l'enfant en difficulté. Et quand je dis aider, c'est vraiment faire la différence. Nous, à l'école, on parle beaucoup. Ça, c'est grâce à un de mes amis qui est porteur de handicap. Et du coup, c'est lui qui m'a appris ces termes. On fait la différence entre une compensation et du favoritisme. Et ça, c'est une notion vraiment fondamentale. C'est-à-dire que, par exemple, t'es dyslexique. Quand on est en maths, puisque c'est en lecture que t'es handicapé, on va te lire les énoncés de maths pour que tu fasses que des maths. Par contre, quand t'es en lecture, on va pas te les lire parce qu'il faut que t'apprennes à lire. Voilà. Donc on va compenser. Et l'enfant dyslexique, souvent, il demande qu'on l'aide tout le temps. Et là, on va lui dire, non, là, c'est du favoritisme. Là, t'as pas besoin qu'on t'aide, en fait. Tu vois, quelquefois, pour coller un document, un enfant qui a une AESH, il prend le réflexe de lui faire coller les documents, de tout faire. Ça a collé, tu peux le faire, tu le fais. Voilà. Et de comprendre que le matin, c'est utile qu'elle le colle, parce que c'est par efficacité pour qu'il soit plus dans les apprentissages fondamentaux. Nous, les après-midi, par exemple, on demande aux AESH de se retirer pour que l'enfant apprenne à demander. Voilà. Et puis, pour que ses pairs, que l'enfant qui est en difficulté demande à ses pairs de l'aider, de façon à ce que ça fasse une vraie société inclusive, on a appris à attendre que la personne porteuse de handicap demande et non pas toujours aller au devant de son handicap. Moi, mon ami qui est en fauteuil roulant, par exemple, je me rappelle une fois on se promenait, puis il y avait un moment ça grimpait. Donc moi spontanément je me mets derrière lui pour le pousser. Il a dit mais je t'ai rien demandé. Donc moi un peu vexé, je lui dis je voulais te rendre service. Il me dit oui mais tu me rends pas du tout service. Moi je peux compter que sur mes bras. Donc il faut que je continue à entraîner mes bras. Donc là ça grimpe. Quand je pourrai plus je te demanderai de l'aide. Mais tant que je suis autonome, c'est vraiment important pour moi de garder cette autonomie. Voilà, donc nous, souvent, notre élan de générosité est pas forcément bienvenu. Donc, faut tout le temps, voilà, dans ton monde à toi, comment c'est, ben, là, j'ai besoin, ben, du coup, dis-le-moi quand t'as besoin, donc apprends à demander. Et moi, j'apprendrai à répondre à ta demande. Mais de trop anticiper la demande de l'autre, ça peut être une erreur. Donc, dans l'aide, c'est cette posture-là qui est tellement difficile. C'est où est-ce que je mets le curseur? Donc, ça ne marche que s'il y a un dialogue entre celui qui a besoin d'aide et celui qui aide. Voilà. Par exemple, nous, à l'école, avec les AESH, on fait un travail toutes les semaines, on fait le bilan de ça. Parce que très souvent, les AESH ont tendance à trop protéger l'enfant en difficulté parce qu'elles ont pitié de lui en disant « mais le pauvre, c'est tellement difficile ». Je dis « oui, mais il sera toute sa vie avec ça, il faut qu'il apprenne à le prendre en compte ». Voilà, lui, il faut qu'il se responsabilise par rapport à ça. Voilà, donc voilà, vous avez des personnes qui en parlent très bien. Hein. Alexandre Jolien parle excessivement bien de cette posture-là.
Et ça me fait penser aussi à une phrase que j'ai entendu, je pense aussi, dans l'une de vos conférences, où vous dites que avoir pris conscience que le monde de l'autre n'est pas le mien, et que ça a été particulièrement révélateur dans votre parcours d'éducatrice.
C'est même la base de tout. En fait, ça, une fois qu'on a compris ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on passe son temps à demander à l'autre, mais comment c'est? Mais pourquoi tu dis ça? C'est la source de tous nos malentendus. Donc l'exemple de base, il est assez simple. Hein. On voit une vache, le peintre, il va voir les couleurs du paysage. Hein. Forcément, le boucher, il voit plutôt les beefsteaks à découper. Quelqu'un qui a peur des animaux se dit « Oh là là, comme elle est grosse et comme elle me fait peur. » Enfin, voilà, chacun va le voir à partir de son angle de vue à lui. Et c'est toutes ces données complémentaires. C'est ça, par exemple, qu'on fait en philo. On regarde une idée, puis on la regarde suivant un zoom. Sur ce focus là, moi j'entends ça, j'entends plutôt comme ça. Et un enfant qui est en train d'apprendre, souvent moi en tant qu'enseignante, j'arrivais vers lui en croyant qu'il pensait comme moi, parce que je savais pas qu'on pensait pas tous pareil. Donc j'allais lui expliquer comme moi j'aimais bien qu'on m'explique. Par exemple, moi je suis très visuelle, j'écris beaucoup, je fais des dessins, des panneaux, des machins, j'en faisais. Mais si j'étais avec un élève très auditif, ça l'aidait pas du tout, mes panneaux, il s'en foutait complètement. Par contre, moi, je passais mon temps à réexpliquer d'une façon différente, alors que quand j'ai appris à lui demander quelle est ta demande, c'est juste incroyable. J'étais hyper vexée. Mais dans 98% des cas, il me disait « Est-ce que tu peux me redire exactement pareil une deuxième fois ?» Voilà. Et moi, j'étais convaincue qu'il fallait que je change de méthode chaque fois. Donc ça a été une découverte qui s'appelle « La gestion mentale » d'Antoine de la Garandrie. C'est une formation que j'ai dû faire dans les années 90. Et là, moi, les bras m'en sont tombés. On était 13 enseignantes. Il fallait qu'on mémorise 13 images. Et ensuite, on est allé dire comment on avait fait. 13 méthodes différentes. Et là, mon monde n'est pas le monde, quoi. OK, mon monde n'est que mon monde. Donc, quand j'ai 30 élèves devant moi, j'ai 30 façons de réfléchir différentes. Donc, la question de base, c'est simplement, comment t'as fait pour trouver la réponse? Que moi, j'estime juste ou fausse. Dans ma tête de prof. Mais du coup, je vais lui dire, au lieu de lui dire c'est faux ou c'est juste, je vais lui dire comment t'as fait pour trouver. Et là, il va me décrire son raisonnement mental, ce qui est le plus difficile du monde. Donc, c'est ça qu'on va leur apprendre à faire. Quelle a été ta démarche? Comment est-ce que t'as fait dans ta tête? Et là, il va nous dire comment il a fait et on va pouvoir trouver l'endroit où il s'est trompé. Voilà. Et l'enfant en difficulté, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il bug tout le temps. Par exemple, c'est un enfant quand... on dit à des enfants de maternelle, grande section, alors est-ce que t'entends A dans ananas? Est-ce que t'entends A dans chat? Puis l'enfant comprend pas la question. Alors comme au début les réponses c'est oui, non, il a une chance sur deux, il dit oui, il dit non, et du coup il est plutôt sur regarder le visage et la tonalité de la question pour savoir s'il faut plutôt dire oui ou plutôt dire non, mais il a pas compris la question. Et l'enfant en difficulté, l'avantage c'est que moi, en tant qu'enseignant, je peux pas me faire avoir par ces réponses parce que un enfant pas en difficulté, on imagine, j'ai une classe de 25 CP, je demande est-ce que t'entends A dans Anana, il me dit non. Je dis est-ce que t'entends dans I dans Ouistiti, il me dit oui. Je me dis c'est bon, il a compris, je passe à un autre. J'ai pas le temps de demander au 28. Avec l'accompagnement d'un enfant en difficulté, je vais pouvoir lui poser la question 5 fois. Par exemple, est-ce que tu entends « i » dans « Ouistiti » ? Tu peux me trouver des mots où tu entends « i » et là, il me dit « girafe »,« chien ». Alors, je suis toute contente, il a compris. Puis après, « souris », je me dis « impeccable, 4, c'est bon, il a vraiment compris ». Puis tout d'un coup, il va me dire « guenon ». parce que lui, il me dit des noms d'animaux. Il n'est pas dans la bonne collection. Voilà. Et ça, tu te dis, ah oui, zut, faut vraiment que je fasse attention quand il me répond. Si ça se trouve, lui, il est dans une collection qui n'est pas la bonne. Même si on fonctionne que par collection, bah lui, il est dans la collection animaux. Ah bon, quand elle me dit, est-ce que tu entends I, en fait, il faut que je lui donne des noms d'animaux. C'est ça qu'elle demande. Voilà. Et donc là, en rentrant à fond avec l'enfant en difficulté en tête à tête, ça donne ce genre de réponse extraordinaire d'une petite fille, où je ne savais plus comment formuler cette question. Donc déjà, on leur apprend à dire, je ne comprends pas ta question. Il n'y a pas que des réponses binaires. Oui, non, il y a une troisième réponse qui est, j'ai pas compris ta question. Et donc elle me disait tout le temps, je comprends pas ta question. D'accord. Alors du coup, je dis, on va chanter avec la bouche, on va chanter A, ah, vas-y, chante A, ah. Donc elle chante A. Ah. Puis je dis, est-ce que dans chat, ça chante A, ah. Et là, toute fière, elle me dit, ah non, non, les chats, ça chante miaou. Et là, on se dit, ok, elle n'a pas compris ma question. Voilà. Et donc cette petite fille, la solution, elle a été trouvée par la gestuelle, le jour où on a fait le son du R, le R. Et dans la gestuelle de Borel Mézoni, on met la main sur la trachée et on fait le R, et du coup on sent bouger la trachée. Et alors elle, de sentir, elle m'a regardé, l'air de dire, mais c'est ça que tu voulais. Alors du coup, elle avait enfin compris la question, c'était extraordinaire. Voilà, donc ces enfants-là nous obligent toujours à aller dans le retranchement, et effectivement, je vais rentrer dans leur monde. Donc en fait, toute la relation et le lien, c'est d'aller dans le monde de l'autre, et dans les situations d'enseignement, c'est bah, dans ton monde à toi, c'est quoi. Et par exemple, si on reprend tout à l'heure la description que je faisais très rapidement du travail de tâtonnement expérimental, c'est pour ça que c'est si important d'abord de chercher tout seul, de façon à ce que je puisse identifier dans mon monde comment je fais, dans ma tête comment je fais. Et ensuite, seulement, je vais coopérer pour voir comment les autres font dans leur tête. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que quand j'explique aux autres comment je fais dans ma tête, soit si j'ai fait une erreur, je vais la voir toute seule, parce que quand je vais faire mon raisonnement, il tient pas. Et du coup, je vais trouver mon erreur. Et du coup, je la ferai plus, je vais vraiment apprendre. Soit au contraire, je sais faire, et en le mettant en mots, je l'intègre. Donc, c'est plus l'enseignant qui fait ce travail-là, c'est les enfants.
On arrive malheureusement déjà à la fin de cette conversation et j'aimerais vous poser une toute dernière question. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants, mais également de familles qui nous écoutent et qui sont très friands de conseils sur comment bien accompagner les enfants. Alors, vous nous avez donné plein de clés, mais peut-être que vous auriez un dernier conseil à leur partager.
Alors, le dernier conseil, bon, faut beaucoup les aimer. C'est toujours pareil. Faut beaucoup les aimer. Et puis, moi, j'aime beaucoup une phrase. C'était Arnaud Desjardins qui disait ça, qui m'aide beaucoup quand je suis un peu perdue ou questionnée ou me dire, non, mais là, comment on fait? Bon, déjà, faut pas se décourager. C'est normal qu'il y ait des jours où ça marche pas. Et puis, les jours où on fait mal, ben, on demande pardon. Voilà, c'est ça là. On va s'excuser. Voilà, on est humble. Sinon, vous avancerez jamais. Si vous mettez la barre trop haut, ça va pas marcher. On est des humains et on est vulnérables. Et les enfants, c'est important qu'ils voient qu'on est des humains vulnérables. Voilà. Et donc, Arnaud Desjardins, il disait, vous avez un seul devoir en tant que parent, c'est d'être heureux. Et ça, c'est du job.
Merci beaucoup, Isabelle, pour votre temps. J'étais ravie de vous avoir au micro de notre podcast. C'est précieux tout ce que vous avez partagé et bravo encore pour tout ce que vous faites.
Eh bien, merci beaucoup.
Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.